Trigger warning, cet épisode parle de drogue.
Vous écoutez Quoi de Meuf, le podcast féministe et intersectionnel qui parle pop culture. C'est une discussion à deux. Chaque semaine, accompagnée d'une de mes acolytes, on parle aussi bien de société que de politique, de patriarcat, de chat, de tofu et de Rihanna. Je suis Clémentine Gallo.
Et moi, Anne Lorpineau.
C'est parti!
Alors qu'une nouvelle amende forfaitaire pour consommation de stupéfiants est mise en place en France, on s'interroge sur les consommatrices de cannabis. Qui sont-elles? Pourquoi fument-elles? Pourquoi est-ce encore mal vu? Pourquoi de plus en plus de femmes se lancent-elles dans l'industrie aux États-Unis? Ouvrez les portes de la perception, on va en parler cette semaine avec Anne Lorpineau, notre représentante amiche. Comment ça va?
Coucou Clémentine. Ouais, ça va bien, même si je me dis que cette rentrée annonce complètement l'apocalypse.
C'est clair.
Je sais pas si c'est les incendies en Californie qui arrivent sur nos pare-brises en France ou l'invasion de guêpes qui fait qu'on peut pas bouffer une compote peinard en terrasse, je sais pas. Mais et toi, ça va ou l'actu féministe te débecte?
Alors justement, pour parler de l'actu féministe, on est en pleine rentrée sociale très chaude puisque les lycéennes sont en guerre pour avoir le droit de s'habiller comme elles veulent en ce septembre caniculaire. Elles ont mis des débardeurs, des jupes, elles ont parfois le ventre et les épaules nues, ce qui est normal par 35 degrés. Pourtant, normal, c'est le mot qu'a utilisé le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer pour qualifier la tenue que filles et garçons devraient porter en classe.
Entre ceux qui veulent qu'on ne voit pas leur visage et ceux qui veulent avoir des tenues de tous ordres, je pense qu'il y a tout simplement une sorte de grand bon sens qu'on doit avoir, qui est d'ailleurs un grand bon sens qu'on voit dans les règlements intérieurs des établissements. Donc les chefs d'établissement sont évidemment dans leur rôle à faire respecter des tenues normales, tout simplement.
On vous invite à vous référer au hashtag « balance ton bahut ». Quant au musée d'Orsay, il a aussi été le théâtre d'une opération des fémènes après qu'une cliente portant une robe se soit faite envoyer bouler à cause de son décolleté.
Ceci n'est pas obscène! Ceci n'est pas obscène! Ceci n'est pas obscène!
Ouais. Ouais, ouais. Je crois qu'il y a même eu des papiers outre-Atlantique sur cette affaire.
Ouais. La France s'est encore distinguée.
Et on s'est doublement distinguée parce que, je ne sais pas si tu as suivi ce qui s'est passé au César, cette espèce de querelle des anciens et des modernes sempiternelle. Bon, pour rappel, Roman Polanski figure dans la liste des membres historiques de l'Assemblée Générale des Césars. Margaret Mengos, qui est présidente par intérim et productrice, a même rappelé que l'Académie tient à, je cite, séparer l'homme de l'œuvre.
Saut 2019, quoi, ce débat.
Donc évidemment, ça a créé un vieux tollé. Une majorité des membres de la liste ont publié d'ailleurs une tribune sur l'AFP pour dénoncer ce choix. On adore Béatrice Dalle qui a directement dit qu'il s'agissait d'un bon gros foutage de gueule.
Sans filtre.
Niveau actu, autrement, on a côté sport, l'athlète Caster Semenya qui se tape, pour rappel, depuis 10 ans des tests et des rejets des grandes ligues du fait de son intersexuation. Elle vient de se reprendre un revers. Le comité olympique l'oblige à subir un traitement hormonal pour courir sa course fétiche le 800 mètres. Enfin, avoir le droit de courir sa course fétiche. Elle doit réduire son taux de testostérone. Pour rappel, Michael Phelps, qui est donc un nageur multidécoré et qui produit naturellement moins d'acide lactique qu'une personne lambda. Moi, je ne savais pas que j'en produisais de l'acide lactique par ailleurs. Ça lui permet d'ailleurs de s'entraîner pendant des heures sans sentir fatigué. Mais évidemment, jamais la Fédération internationale de natation ne lui a demandé de modifier son patrimoine génétique. Hein. Deux poids, deux mesures, same old story en 2020.
Big up à notre warrior, la joueuse de tennis Naomi Osaka, qui a montré ses super masques Black Lives Matter avec les noms des victimes.
You said from the beginning you had 7 matches, 7 masks, 7 names. What was the message you wanted to send, Naomi?
Well, what was the message that you got? Was more the question. I feel like the point is to make people start talking.
Évidemment, la presse s'est empressée de lui sauter dessus. De l'autre côté de l'Atlantique, mais ici aussi, on pleure la disparition de la juge de la Cour suprême, Ruth Bader Ginsburg. Et d'ailleurs, on vous invite à revoir le documentaire qui lui était consacré.
I ask no favor for my sex. All I ask of our brethren is that they take their feet.
Alors, pour parler de notre sujet de la semaine, donc les femmes et le cannabis, on va rappeler quelle est l'actualité autour de cette question, puisque depuis la rentrée, la politique pénale contre la drogue en France s'est durcie et vise principalement les consommateurs et les consommatrices. Le Premier ministre Jean Castex a exprimé son souhait de généraliser la procédure d'amende forfaitaire de 200 euros pour le délit d'usage de stupéfiants, y compris pour le cannabis. C'est donc une stigmatisation des personnes pour des offenses mineures et sans doute une manière un peu sournoise de remplir les caisses de l'État. C'est également un paradoxe, puisque depuis décembre 2019, la France a également autorisé le cannabis médical. Alors pour l'instant, où en est cette expérimentation qui était censée commencer là au mois de septembre? Où en est le financement? Eh bien, pour la mener à bien, on attend la publication du décret. Voilà, et donc les associations de patients et de patientes s'impatientent, c'est le cas de le dire. Notamment pour le traitement des maladies chroniques. Et à titre de comparaison, en Allemagne, ce serait près de 100 000 personnes qui sont traitées grâce au cannabis médical. Pendant ce temps, sur les plateaux, le ministre Gérald Darmanin déclare « Je refuse de légaliser cette merde ». Fermez les guillemets. Et le romancier Yann Moix s'est aussi exprimé sur la question sur la chaîne CNews, on l'écoute.
La légalisation du cannabis revient à entériner une impuissance des autorités publiques, c'est-à-dire comme on est incapable de mettre fin à un fléau, eh bien on l'autorise. Et donc on officialise une impuissance. C'est un signe qu'on donne, d'ailleurs, qui est terrible pour tout, parce qu'on peut aussi légaliser le viol. Je veux dire, on peut commencer à s'amuser à légaliser.
Là, pardon, Yann Moix, mais c'est un raisonnement par l'absurde que vous faites.
Évidemment que je raisonne par l'absurde, puisque je trouve absurde, complètement absurde, qu'on légalise une faute sous prétexte qu'on est incapable de l'endiguer.
Merci, alors, pour cet avis passionnant.
Ah, il parle de tout, hein, Yann Moix, il spécialise de tout.
C'est ça. Sans qu'on l'ait sollicité en plus. Alors pour donner quelques chiffres, en Europe, la France est en tête pour la consommation de cannabis. Elle concerne 52,7% d'hommes contre 37,2% de femmes et concerne plutôt les jeunes, sans surprise. On peut aussi noter que pendant le confinement, elle a augmenté, en tout cas aux États-Unis, parce qu'il fallait bien s'occuper. Voilà. Est-ce que tu peux nous faire un petit rappel historique peut-être d'où vient le cannabis, depuis combien de temps on s'en sert et pour quels usages?
Of course. Alors déjà, le cannabis, la marijuana, la ganja, la beuh, la pot, la hemp, l'herbe, le cannabis, le chanvre, enfin bref, peu importe la diversité des mots qu'on emploie pour désigner la marijane, cela démontre bien la diversité de ses utilisations, la diversité de ses usages et de ses territoires. Bon, alors elle est originaire d'Asie, peut-être d'Himalaya, ou d'Europe du Nord ou d'Afrique. En vrai, on retrouve la présence de la marijuana ou du chanvre un peu partout dans de très nombreuses cultures à travers le monde. On a retrouvé des traces dans la Chine néolithique, quand même. En Grèce, Hérodote en parlait pour ses effets psychotropes. En Inde, ça fait partie des rituels ayurvédiques pour booster la libido ou bien calmer les nerfs, un peu double effet qui se coule. De tous les dieux hindous, c'est Shiva qui est le plus souvent dépeint en train d'apprécier les propriétés du cannabis. Shiva, le dieu de la guerre et de la destruction. Alors que dans la mythologie germanique, la plante et ses effets sont associés plutôt à la déesse de l'amour qui s'appelle Freya. Très joli prénom par ailleurs. Les objectifs peuvent être spirituels, donc c'est utilisé par les chamans dans bien des cultures, par exemple, ou pharmaceutiques, depuis des lustres. Même au XIXe siècle, Théophile Gautier, qu'on connaît pour le roman de la momie, un de mes romans fétiches quand j'étais petite,
je suis tellement pas étonnée,
a cofondé le club des hachichins, fréquenté par pas mal d'artistes. Bon, c'est vrai qu'à l'époque, on disait pas trop non à l'opium ou à l'absinthe, qui était censé être bon pour la créativité. Et il se trouve que même la reine Victoria, quand même, la fameuse queen, s'en servait pour ses douleurs menstruelles. Donc bon, on peut
pionnière.
Donc on peut dire que le cannabis c'est un peu le fil rouge de l'humanité avant, bien sûr, que ça devienne tabou.
Oui, parce que le cannabis n'a pas toujours eu la mauvaise image qu'il traîne aujourd'hui. Tu l'as dit, il est devenu tabou, proscrit ou en tout cas mal considéré. Il faut quand même rappeler que l'histoire du cannabis est surtout indissociable de l'histoire coloniale, puisque ce sont les conquistadors qui ont amené le chanvre européen, qui venait lui-même du chanvre indien, qui était surtout utilisé pour le tissage ou pour faire de la peinture, qui l'ont emmené au Mexique, où là-bas, les esclaves et les Mexicains ont commencé à le fumer. Alors évidemment, cette activité était réprouvée par l'Église catholique, qui voyait les premiers fumeurs de weed comme des meurtriers, des maniaques, des satanistes, et pensait que ça rendait fou, agressif, ou obsédé sexuel, voilà, ça n'a pas tellement changé
bien
depuis.
Bien avant Trump,
ouais. Et donc, en fait, on s'est rendu compte que les représentations du cannabis se sont trouvées dévaluées, surtout pour des questions de racisme. C'est-à-dire qu'au début du XXe siècle, aux États-Unis, on s'est mis à discriminer discriminer les immigrants mexicains qui ont donc amené le cannabis aux États-Unis. Il faut rappeler qu'il a joué un rôle dans l'apparition du jazz à la Nouvelle-Orléans et pour ça, on le remercie. Et en fait, les autorités ont pris ce prétexte pour dire que ça allait contaminer, pervertir d'innocents petits enfants blancs. Donc, c'est surtout Harry Anslinger qui a été vraiment le pape, l'artisan de la prohibition aux États-Unis, qui a vraiment organisé toute une campagne de propagande à partir de rapports de police totalement fictifs, sans aucune base scientifique et contre les avis médicaux. Lui, il appelait ça des Gore Files. Donc, il disait que le cannabis rendait fou, alors qu'on sait aujourd'hui que l'effet est surtout euphorisant ou désinhibant. Et il s'en est servi pour faire voter la criminalisation du cannabis parmi d'autres stupéfiants et pour mieux donc discriminer les Mexicains, les Mexicaines et les Noirs aux États-Unis. Et il a notamment contribué à disséminer une théorie qui est encore en vogue aujourd'hui, qui s'appelle la théorie de l'escalade ou du tremplin, qui dit que le joint serait en fait une porte vers des drogues dures. Or, on sait aujourd'hui que ce n'est absolument pas prouvé. Et franchement, le mec était tellement pervers qu'il a même fait cacher de la drogue chez Billie Holiday pour la faire arrêter, donc ça va loin quand même.
Not far from where we are now, in 1939, Billie Holiday stands on stage in a hotel and she sings the song Strange Fruit, which obviously your viewers will know is an anti-lynching song. Her goddaughter Lorraine Feather said to me, you've got to understand how shocking this was, right? Billie Holiday wasn't allowed to walk through the front door of that hotel, she had to go through the service elevator. To have an African-American woman standing up at a time when most pop songs were like twee, you know, P.S. I Love You, that kind of thing, singing against lynching was in front of a white audience was regarded as really shocking. And that night, according to her biographer, Julia Blackburn, she's told by the Federal Bureau of Narcotics, stop singing this song. Federal Bureau of Narcotics was run by a man called Harry Anslinger, who I think is the most influential person who no one's ever heard of. Harry Anslinger takes over the Department of Prohibition just as alcohol prohibition is ending, and he wants to find a new purpose for it. He's got this huge bureaucracy he wants to run, and he's really driven by two passions. An intense hatred of African Americans. I mean, this is a guy who was regarded as a crazy racist by the crazy racists in the 1930s. And Billie Holiday to him was like the symbol of everything that was going wrong in America. And so he gives her this order. She refuses. She basically says, screw you, I'm an American citizen. I'll say what I want. She had grown up in segregated Baltimore and she had promised herself she would never bow her head to any white man. And that's when Harry Anslinger begins the process of stalking her and eventually, I think, playing a role in her death, as it was explained to me by her friends and by all the archival research.
Et ensuite, les différentes administrations américaines ont vraiment continué cette politique prohibitionniste. Voilà. Et il faut savoir que dans les années 80, à l'inverse, il y a eu tout un mouvement pour promouvoir son usage médical, notamment venant des malades du sida, qui a vraiment fait émerger la question du cannabis médical. Pour toute cette histoire, vous pouvez vous référer à la super BD de Bugs Brown qui s'appelle Cannabis, la criminalisation de la marijuana aux États-Unis.
On va s'empresser de l'acheter.
Hein.
Oui, comme tu disais, il y a eu une sorte de petit virage dans les années 80 et on peut parler aussi de réappropriation féministe du cannabis. Bon, il faut savoir que dès l'entre-deux-guerres, comme tous les éléments qui permettent en gros aux femmes de s'évader par la pensée, puisqu'elles ne peuvent pas s'évader physiquement, du mariage, ou de démontrer une certaine liberté d'esprit, l'alcool comme le cannabis sont considérés comme faisant mauvais genre pour les femmes. Alors, il y a eu tout un tas de propagandes angoissantes qui ont mis en scène des femmes tentées, je cite.
Faudrait surtout pas trop s'amuser.
Bah voilà. Le plus connu, c'est le film Reef Madness, qui est sorti en 1936.
These high school boys and girls are having a hop at the local soda fountain. Innocently, they dance. Innocent of a new and deadly menace lurking behind closed doors. Marijuana. The burning weed with its roots in hell.
Qui a été commandé par une église. Alors, je vous conseille vraiment de le regarder parce que c'est à mourir de rire. Ça montre un tas de gens qui fument, le nouveau narcotique à la mode, donc c'est de la beuh, et qui commettent des actes délictueux pour les hommes et immoraux pour les femmes, et immoraux d'ailleurs pour les deux, puisqu'ils dansent, ils sont proches les uns des autres.
Oh my god!
Et donc, évidemment, si on se dit que le péché est quelque part, les têtes froides du féministe ont tendance plutôt à mettre les gaz dans cette direction. Ça ne va pas empêcher du coup les hippies de populariser l'usage du cannabis dans les années 60 et faire de la plante un symbole des mouvements anti-guerre et de la liberté sexuelle. Bon, on sait aujourd'hui que la liberté sexuelle n'était pas forcément féministe.
Et alors, est-ce qu'on n'a pas un petit fun fact lesbien ?
Total. Alice Betoklas, la compagne de l'autrice Gertrude Stein, avait popularisé la recette du hashish fudge dans ses mémoires, qui font aussi livre de cuisine, on vous conseille de le lire aussi. Elle en parlait comme « The Food of Paradise ». Si vous souhaitez lui dire merci d'ailleurs, elles sont toutes les deux enterrées au Père Lachaise. Sur une seule et même tombe, on trouve côté face Gertrude Stein, côté pile sa compagne Alice Bétoclasse. Je sais où c'est grâce aux super visites féministes de la Mère Lachaise que je vous conseille par ailleurs.
Inscrivez-vous. Mm-hmm. Bon, et alors pour revenir au présent, on fête désormais, en tout cas aux États-Unis, le 420, le 20 avril, donc la grande fête du chanvre. 20th of April and there's something in the air. You can see it all around you, you can smell it everywhere. Et sujet qui nous intéresse davantage, de plus en plus de femmes en fument. Pour se détendre, il semblerait que le verre de vin ait été remplacé par le vapotage de weed. D'ailleurs, en anglais, on parle de marijuana mom, donc de mère à la Marie-Jeanne, puisqu'il paraîtrait que un petit joint peut aider à gérer des gosses pénibles. Voilà. Now some moms are microdosing THC, the active ingredient in marijuana. Just ask Alaska mom Leah Campbell. She says microdosing actually makes her a better mom.
I was this version of myself that I want to be. A little more easygoing, happier, more fun. And not because I was high, but because I just wasn't stressing out all the time.
Et notamment aussi parce que le cannabis se consomme aujourd'hui sous d'autres formes. C'est-à-dire qu'on ne le fume pas uniquement, on peut le vapoter, on peut le manger sous forme de edibles. Aux États-Unis, il y a aussi des vape pens.
Des petites sucettes aussi.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, la fondatrice du magazine Gossamer, qui est un magazine sur l'art de vivre du cannabis, résume bien les questions que l'on se pose actuellement concernant les femmes. Par exemple, vous pensez vraiment que personne autour de vous n'en fume, mais si. Ou encore, vous dites que l'alcool ne vous définit pas. Pourquoi est-ce que la weed vous définirait? Faites votre coming out du placard. Et elle se pose également la question de qui a le droit de fumer en public ou pas. Est-ce qu'il y aurait des femmes pour qui ce serait mieux toléré? On va en parler dans la suite de l'épisode. En tout cas, il y a une femme qui ne s'en cache pas, c'est Miley Cyrus, dans sa chanson Do It. On l'écoute.
Yep. I need some more marijuana. Yeah, I love peace,
but I don't give a fuck. I ain't no hippie. Bon, alors toutes ces petites commercialisations du cannabis, c'est dû aussi en partie au CBD et à tous ses dérivés. Déjà, c'est quoi le cannabis? On va revenir un peu aux bases. Donc, il y a différentes variétés aux noms les plus alambiqués, indica, sativa et d'autres noms un peu plus chelous. Et toutes ces variétés ont des propriétés différentes. En effet, la petite plante contient différentes molécules. Ce serait cool d'avoir Jamie pour nous expliquer.
Ouais.
Hey, oh, Jamie !
Des cannabinoïdes aux effets différents. Donc, il y a le THC, qui a un effet psychotrope, et le fameux CBD, cannabidiol, qui, lui, a un effet apaisant et qui n'est pas addictif. C'est important de le rappeler. Donc, certaines essences sont neutres en THC, et ça, c'est le CBD. C'est ça qu'on peut acheter en France, dans plusieurs magasins spécialisés ou pas, même si la législation est encore floue sur la question et que ça peut pas encore, en tout cas, être vendu comme un médicament. Il s'achète sous forme de fleurs, d'infusions ou d'huile ou de petits liquides pour les fameuses cigarettes électroniques.
Oui, c'est vendu comme des produits bien-être.
Exactement.
Voilà, une catégorie très vague.
Mais encore une fois, c'est un peu chelou. Moi, par exemple, une de mes potes s'est chopée une amende à Paris en se trimballant avec une petite fiole pour sa cigarette électronique. Elle a eu beau expliquer que c'était un produit légal, elle avait la affiche avec elle le ticket de caisse et ça n'a pas suffi, elle s'est quand même fait targeter.
Incroyable.
Mais je pense que c'était parce qu'elle était racisée, donc...
évidemment.
Si elle avait été blanche, peut-être que ça aurait été une autre histoire. Bref. Beaucoup de femmes s'en servent en tout cas pour se traiter elles-mêmes pour certaines douleurs, par exemple les douleurs menstruelles, pour gérer les problèmes liés à l'endométriose. C'est apparemment très efficace. Pour les migraines chroniques, les problèmes de sommeil, les maladies articulaires et l'épilepsie. D'ailleurs, Lisa Mandel en parle dans sa BD Une année exemplaire qui vient de sortir.
Oui, le CBD et le cannabis sont aussi utilisés pour traiter des maladies chroniques comme le cancer ou pour traiter les effets de la maladie de Parkinson. D'ailleurs, il suffit de faire un tour sur Internet pour se rendre compte que des personnes en chimiothérapie retrouvent l'appétit, que ça peut stopper des tremblements incontrôlables. D'ailleurs, c'est l'une des raisons pour laquelle de plus en plus de personnes âgées sont obligées de se la coller en fin de vie. Et franchement, on les comprend, ils et elles ont bien raison. Et d'ailleurs, selon les vendeurs et les vendeuses dans les magasins de CBD, certaines personnes sont envoyées directement par des médecins, mais toujours de manière informelle. D'ailleurs, je me permets de vous référer à un article que j'ai fait pour le magazine Cosette sur la question il y a quelques mois. Et il faut savoir qu'en France, c'est principalement du CBD qui est importé, par exemple, de Suisse, et qu'il existe aussi tout un tas de produits de très mauvaise qualité sur le marché qui viennent souvent de Chine, qui ont des compositions douteuses. Et donc, c'est important d'aller sur des sites fiables et dans des boutiques fiables et de ne pas acheter acheter n'importe quoi. Voilà.
Oui, comme tu dis, quand c'est pas légalisé, alors c'est compliqué au niveau de la qualité. Bon, un pays où c'est légalisé, on en parlera beaucoup d'ailleurs dans cet épisode, c'est les États-Unis. 11 États plus Washington DC, la capitale, ont légalisé le cannabis sous forme récréative, donc c'est-à-dire plus simplement médicale, mais on peut en acheter pour s'amuser comme si c'était de l'alcool.
Wouhou!
Exactement, et c'est un véritable business là-bas.
Et d'ailleurs, le pays s'est effondré suite à cela, ou pas.
Ou pas. Il y a la Women Grow Leadership Summit. C'est des femmes qui ont décidé de s'organiser ensemble, en tout cas, pour représenter ce business-là. Il y en a aussi qui ont lancé une herboristerie particulière sur le sujet. Ça s'appelle la Humboldt Apothecary. C'est le nom d'une région au nord de San Francisco qui est très productrice en matière de weed. Bon, alors le problème, c'est que là, tout a flambé, donc... D'ailleurs, l'odeur devait être assez étonnante. Bref, on les appelle les puffragettes, un peu en référence aux suffragettes, car c'est un secteur où les femmes sont plus nombreuses que les hommes.
Ouais, c'est rare.
Ça arrive. Il y a aussi eu beaucoup plus de femmes qui sont les bosses. Et ça, c'est aussi parce qu'à la base, c'est une économie souterraine. Et donc, sortir une économie souterraine en plein air, en tout cas la légaliser, c'est une opportunité pour les femmes. Pour autant, tout n'est pas rose non plus. Ça aurait été étonnant. Selon le documentaire Mary Jane's The Woman of Wheat, qui est sorti en 2017, il y a plein d'histoires de violence et de scandales dans cette branche. Du bullying, du manque de soutien, harcèlement sexuel évidemment, du racisme. Mais pour autant, c'est aussi un milieu plus inclusif en termes de représentation des personnes LGBT+. 69% des travailleurs et travailleuses du cannabis s'identifient comme hétéros contre 95% de la population normale.
Ouais, donc c'est un peu une niche quand même. Et alors, selon l'étude américaine Women in Cannabis, les femmes qui travaillent dans cette industrie, pour la plupart, en fument et en consomment tous les jours. Et elles ont été interrogées sur les raisons de cette consommation et elles citent, par ordre d'importance, la relaxation, le sommeil, la douleur, la concentration, la créativité, mais aussi la spiritualité. Et dans les raisons données pour l'exercice de ce métier, elles citent aider les gens, une passion pour la plante et éduquer. Et tout cela vient avant des raisons économiques, ce qui est quand même assez intéressant. Alors aujourd'hui, effectivement, c'est un business florissant dans tous les sens du terme, avec ses abus, ses excès. On y trouve pêle-mêle des tampons à la weed qui sont commercialisés par Whoopi Goldberg.
I didn't understand why there was no product out there dealing with cannabis and women's menstrual cramps for years. And can tell you that for me, it eliminated a lot of the pain that come along with the period.
As states continue to legalize cannabis, we've seen an influx of new products hit the market, but very few geared toward women.
I said, well, has anybody got anything for women and menstrual cramps? He said, no, that's a niche market, he said. I say, well, you know the niche is half the population, right?
Des produits pour booster la libido, toute une industrie de la beauté qui se développe autour du chanvre dont on vante les propriétés pour l'élasticité de la peau. D'ailleurs, je vous recommande d'aller faire un tour chez Sephora, vous verrez ce qu'il en est. On peut aussi consommer les graines de chanvre en cuisine. Et d'ailleurs, il y a le livre CBD Usage, recettes et pharmacopées publié chez Marabout récemment. Et sur Instagram, il y a notamment le phénomène qu'on appelle en anglais « bong ripping Instagram hotties ». Qu'on traduirait en français par des bonasses avec leurs bangs. Voilà. Et il y a d'ailleurs beaucoup de femmes qui défendent l'usage féminin du bang comme quelque chose qui ne devrait pas être impressionnant, qui ne devrait pas faire peur, mais qui peut être utilisé ponctuellement une fois de temps en temps pour se donner un petit rush d'adrénaline. Voilà.
Bon, évidemment, il y a un énorme, énorme revers à la médaille. En 2020, Elena Frankel a publié Women and Weed, How the Green Rush is Changing Our Lives. En gros, dès que le filon financier est assuré, les grosses entreprises siphonnent totalement le travail des petits producteurs et des petits magasins. D'ailleurs, le marché va atteindre 23 milliards de dollars en 2022. C'est énorme. Et comme toutes les productions qui viennent de la contre-culture et qui deviennent mainstream, la libéralisation se fait toujours aux dépens des mêmes et toujours au bénéfice des autres. Les personnes qui arrivent à faire leur bise dans le cannabis légal, ce ne sont pas les personnes racisées qui restent à galérer à se faire targeter par les forces de police. Évidemment, ce sont les blancs.
Et alors on écoute Addicted de Amy Winehouse. Alors, il y a aussi, donc tu l'as dit, des questions de racisme, des questions d'appropriation culturelle. On rappelle à toute fin utile que le terme marijuana fait débat aujourd'hui parce qu'il a été utilisé à l'origine par les prohibitionnistes pour justement susciter des réflexes racistes en utilisant les consonances latines du terme. Voilà, donc il vaut mieux éviter de l'utiliser. Et on rappelle également que les personnes racisées sont 4 à 8 fois plus susceptibles d'être arrêtées pour possession, en tout cas aux États-Unis. Et d'ailleurs, les femmes noires en parlent, on les écoute.
Now that it is legalized, whether medicinal or recreational, why is it important for us to have a position in this industry as business owners, as entrepreneurs, as employees, and or as investors? It's very important because this industry was built on our backs.
Et j'ai envie de vous raconter l'histoire d'une meuf ouf.
Vas-y.
Il y a quelques années, j'ai rencontré en Californie la chef Andrea Drummer. C'est l'une des super chefs de la weed aux US. Elle est basée à Los Angeles. Et elle a une histoire absolument passionnante qu'elle articule avec le principe de la réappropriation de la weed et de la reconquête de son identité de femme noire. Donc elle a grandi avec l'idée que la drogue, c'est mal.
Que la drogue, c'est mauvais, voyez.
Comme beaucoup d'entre nous. Mmh. Et elle avait accepté le récit que l'Amérique blanche lui avait servi. Elle a vécu une vie hyper dure, tout en marchant sur cette route de la rectitude. Elle a fait des jobs de merde, elle les a cumulés. Elle a été tâche de son logement, elle a dormi dans sa bagnole, avant de devenir éduxpé dans la prévention contre les drogues. Là, elle a dit, la drogue, c'est mal. Et un jour, elle s'est mise en colère contre les lois Clinton. Elle a compris leur fabrication raciste. Le fait est que les lois Clinton targetaient plus les communautés noires que les communautés blanches. En gros, on attaque plus les consommateurs de crack que les consommateurs de coke. Elle s'est réaccaparée la weed, sa culture, son histoire, sa consommation. Elle m'avait dit, par exemple, « Concernant le cannabis, je considère aujourd'hui que je faisais de la désinformation. » D'éducatrice, elle est devenue juriste et elle a travaillé pour un avocat qui, lui, était un gros fumeur. Et là, elle a vu les effets positifs de la weed. Elle a vu que ça l'aidait à se concentrer. Elle a vu que ça lui donnait confiance en lui, l'avocat. Et surtout, elle a vu que tout ce qu'elle avait répété en tant qu'éducatrice était du cliché et de la désinformation. Elle disait « Il n'est pas paresseux loin de là ». Et c'est quand même un peu drôle. Et donc elle s'est dit, finalement la cannelle est une plante, le cannabis aussi. Elle a fait des études de cuisine en France, elle est devenue super forte, elle a travaillé au Ritz et tout. Elle est revenue en Californie au moment où on autorisait la weed non récréative et à but médical.
Donc mais elle a... non, il fallait rester en France.
Je pense qu'elle pourrait revenir, attention. Donc elle a commencé à faire des super dîners gastronomiques pour les personnes malades, aussi dans un but de don et de care, donner de la super bonne nourriture à des personnes malades, leur redonner l'appétit à des personnes qui sont en chimio. Et elle organisait des dîners de ouf. Et quand l'État a autorisé la consommation récréative en 2016, alors elle a ouvert ses dîners à beaucoup. Et c'est hyper guindé, donc c'est pas pour tout le monde. Mais elle travaille avec des producteurs et des productrices bio qui ont leur champ au nord de San Francisco. On a pu s'incruster à un mariage où elle a fait des banquettes sans vin avec des plats juste succulents. Et ce qui est cool aussi, c'est qu'à travers sa cuisine, elle travaille aussi sur ses racines de femme noire. Donc elle fait des super bons petits plats. Enfin, elle est trop forte.
I've been doing this since 2012. I don't want you to smell the cannabis or taste it. I just want you to have a great food experience knowing that there is THC involved. People are think of edibles as a very high dosage. For me, when I came into the industry, I had to educate people about edibles. I was begging people to come to my dinners because they were deathly afraid.
Et surtout, elle rappelle que l'important pour planer, c'est quoi? Du gras, la crème, des carbs. Donc, je vous conseille de regarder sur YouTube, elle a des vidéos, des recettes, c'est super cool. Andrea Drummer.
Incroyable. Et d'ailleurs, effectivement, si vous utilisez le CBD, par exemple, en tisane, il ne faut pas juste le faire infuser, mais il faut mettre du lait pour que ça fonctionne. Voilà, c'était le petit tips du jour.
Si tu as un petit tips, peut-être que tu as une petite expérience perso à nous partager, Clémentine.
Non, je ne veux pas être arrêtée. Oui, alors moi, j'ai fumé de la beuh de manière occasionnelle. D'ailleurs, c'est plutôt du shit hein, à Paris. On ne va pas se mentir. De temps en temps, donc depuis le lycée, quand on m'en proposait. Par contre, j'en ai jamais acheté, j'ai jamais compris comment on faisait pour en acheter. Et en tout cas, personne ne me propose jamais d'en acheter dans la rue. Voilà, ce n'est pas étonnant. Et d'ailleurs, pendant le confinement, les ventes flash de weed par smartphone avec livraison m'ont vraiment fait bien rigoler. Moi, j'ai eu une fois un bad trip en faisant un space cake avec du yaourt. Ne le faites pas. Et depuis, j'ai compris que fumer n'est pas ingéré. Ce ne sont pas les mêmes effets. Voilà, après, c'est vrai que je connais aussi quelques personnes autour de moi qui en ont vraiment abusé, qui sont un peu ralenties aujourd'hui, mais c'est vraiment loin d'être la norme parmi tous les gens que je connais qui en fument. Moi, à titre personnel, j'aime pas beaucoup le THC parce que ça me fait gamberger et que ça m'empêche de dormir. Ça me fait plus trop rigoler, je pense que je suis trop vieille pour ça. En revanche, je suis une cliente convertie du CBD sous forme d'huile que l'on prend donc sous la langue pour dormir ou pour me détendre. Franchement, mais mais c'est la vie, quoi, ce truc. Tu peux l'acheter facilement. D'ailleurs, j'en ai même refilé à ma mère qui a le même problème que moi, la même maladie du côlon irritable. Et franchement, ça l'a bien détendue. Donc voilà, toute la famille est convertie. Et par ailleurs, quand j'ai été en voyage à Amsterdam, j'ai eu l'occasion de visiter une chaîne de coffee shop qui est tenue uniquement par des femmes, The Boerejongens, qui veut justement redorer l'image du cannabis et faire des endroits qui sont clean, qui ne sont pas effrayants et qui sont accueillants pour les femmes. Voilà, donc si vous avez l'occasion d'aller à Amsterdam, faites un tour là-bas. Et toi alors, Anne-Laure ?
Bah, perso, moi, mon expérience est limitée à quelques incursions dans le domaine de la weed.
Qu'est-ce qu'on est sage dans ce podcast ?
Ouais, j'avoue. Bah, je me souviens bien des albums de Bob Marley, mon père. Je me disais, waouh, ouais, ça a l'air tellement cool. Et puis j'étais surprise parce qu'il y avait toujours sur les unes des feuilles.
Il a l'air vraiment détendu.
Des feuilles et des grosses fumées. Je me disais, waouh, le mec, il est trop classe.
Il est écolo.
Et sinon, oui, j'ai tenté de fumer de temps en temps des immondes pètes avec du tabac. C'est le tabac, je crois, qui me rendait particulièrement malade. Avec de la résine de cannabis d'horrible qualité, donc dégueulis assuré. J'ai eu quelques petits planages agréables avec des plantes poussées dans des jardins de bord de Loire, mais rien de bien super. Les meilleures expériences que j'ai eues, c'était aux États-Unis, donc à Los Angeles, avec de la weed pharmaceutique, avec un taux fort de CBD. Et à la Nouvelle-Orléans, donc c'est une ville très chère à mon cœur, que j'aime pour son odeur de vieille pisse, de jasmin fané, de mousse et de weed. Je vous conseille d'y aller.
Alors, on va écouter le témoignage de la stand-upeuse Mao qui nous parle de son expérience avec la weed au lycée.
J'ai commencé à fumer de la beuh l'été de la troisième à la seconde. C'est quelque chose qui s'est fait hyper naturellement parce que j'étais avant dans un collège de bonnes sœurs, pas mixte, qui était hyper sévère. Et pourquoi c'est naturel ? C'est parce que cette sévérité, ça faisait que du coup, on voulait faire les badass girls beaucoup plus tôt peut-être qu'on l'aurait fait dans d'autres circonstances. Et cet été-là, je m'étais fait renvoyer de mon collège parce que j'avais dit à une bonne sœur de se faire enculer. Donc autant vous dire que les gens se vexent pour un rien. Et du coup, cet été-là, je traînais avec des gens avec qui on s'imaginait qu'on vivait une vie pleine de rock and folk. On avait quand même des jeans troués par nous-mêmes parce qu'on avait fait des trous avec des ciseaux. Donc autant vous dire qu'on avait quand même bien vécu. Tout ça se passe à Paris, dans le quartier du 11e, 20e arrondissement. Et voilà, je me rappelle de ma première fois où j'ai fumé de la beuh, parce que c'est une fille que je trouvais magnifique, qui est devenue mannequin d'ailleurs depuis. Peut-être qu'en fait, je l'ai kiffée. Bref, c'est pas la question. Et elle m'a fait une soufflette. Donc je me rappelle avoir eu le sentiment d'avoir un trou dans la gorge. Et c'était pas très agréable, j'avais bu des tonnes de bière pour essayer de me dire que ça allait réparer le trou. Mais ce que j'ai retenu ensuite, c'est que qu'est-ce que j'ai rigolé. Pendant tout le lycée, j'ai fumé énormément de beuh. J'ai toujours associé ça à des moments d'intense rigolade avec mes meilleurs amis. J'avais une bande avec qui j'étais très 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 proche au lycée. On était vraiment fusionnels, toujours ensemble. Et on avait d'ailleurs un peu un cri de guerre, et c'était un truc du genre de l'amour et beaucoup de beuh. Donc c'est vrai que ça avait une place importante. Je dirais qu'au fil du temps, quand j'étais en première, on fumait entre 5 à 8 joints par jour. On séchait du coup beaucoup les cours. On allait chez les uns, chez les autres, quand les parents n'étaient pas là. Et c'était convivial, festif. Mais c'est vrai que comme on aimait un peu trop la fête, bah on faisait beaucoup la fête par jour, quoi. Et pour mon cas, c'est vrai que ça a eu une incidence sur mes notes. Après, c'est aussi parce que j'ai jamais été une grande travailleuse. Donc, est-ce que c'est la beuh ou est-ce que c'est ma flemme ? Tu sais quoi ? Peut-être les deux. Peut-être les trois, en rajoutant genre le manque de talent à l'école. J'ai jamais ressenti de sexisme particulier lorsque j'ai fumé de la beuh, parce que dans le lycée où j'étais, qui s'appelle Hélène Boucher dans le 20e, je pense que fumer de la beuh, taper quatre accords de gratte sur une guitare et avoir un discours de gauche, c'était un package de base. Du coup, il n'y avait pas du tout de différence, je trouve, entre filles et garçons. Les seuls événements, je sais pas, dont je me rappelle comme ça, des anecdotes que je lirais à la beuh, c'était nos énormes commandes avant de partir en vacances avec ma bande de meilleurs potes là dont je vous ai parlé. Une fois aussi, on avait des amis qui faisaient pousser de la beuh et qui irriguaient un peu le lycée. C'était un deal, mais un deal de copinage, quoi. On n'était pas sur un gang qui était en train de gangréner tout un quartier, mais je me rappelle qu'ils avaient été arrêtés par la police au lycée, dans leur classe, et ensuite ils avaient été en garde à vue longtemps, au moins 48 heures, je crois. Et je me rappelle de ça comme un événement, un peu Ouais, un tremblement de terre interne. Je me rappelle aussi d'une fois où j'avais séché les cours avec mes amis. Et je prends le métro pour rentrer chez moi à l'heure factice de fin de cours. Et je m'assois complètement défoncée sur un carré. Et je sens un regard sur moi. Et ce regard, c'est un regard de python, un regard terrifiant. Et c'était ma mère. Ma mère porte des mocassins. Ma mère est hyper stricte. Ma mère, quasiment, genre, elle fait partie de la manif pour tous. C'est vraiment vous dire, c'est pas la meuf qui va trouver que tu fais tes premières expériences avec bonheur si elle comprend que t'es défoncée. Elle l'a compris. Je me rappelle aussi de ça comme un tremblement interne.
Alors, merci pour ce témoignage. Vous pouvez la suivre sur son compte Instagram, @maodrama. Elle reprend également son spectacle Drama Queen, qui est queer et festif, à la Petite Loge à Paris en janvier. Et elle organise tous les dimanches un super plateau de stand-up bienveillant qui s'appelle Comedy Love. Et c'est sur la péniche de la Nouvelle Scène.
Ça donne trop envie.
Le moment.
Pop.
Culture.
Pop.
Culture.
Alors au cinéma, il y a très longtemps eu le genre très masculin du stoner movie qui a un peu dominé le marché avec des films comme Pineapple Express, Dazed and Confused et évidemment Le Big Lebowski. Mais les femmes qui fument sont quand même un peu partout aujourd'hui dans la pop culture et heureusement elles ne sont plus uniquement associées à la criminalité ou à des femmes de petite vertu. Alors évidemment il y a eu la pionnière, c'était la série Weeds.
What's your business?
I own a bakery.
Smart cover.
You just have to make it look like you're running a bakery to legitimize your dealing.
I'm not a dealer, I'm a mother who happens to distribute illegal products through a sham bakery set up by my ethically questionable CPA.
Aujourd'hui il y a Orange is the New Black, Betty, High Fidelity et surtout il y a eu Broad City qui a quand même normalisé à travers la comédie le fait de fumer de manière quotidienne et d'embellir son quotidien. Et d'ailleurs je vous invite à revoir cette scène où le personnage de Ilana cache de la weed dans son vagin.
Ilana, you just pulled a bag of pot out of your vagina.
I know.
Why would you do that?
I do it all the time. Honestly, it's the safest way to travel.
Apparently, I have been smoking this tainted weed for I don't even know how long. I didn't mean that. This is disturbing to me.
I don't know what to tell you. It's in a bag. And, you know, the vagina is nature's pocket.
Et le magazine Elle a même retracé toute une histoire de ce qu'on appelle la stoner babe, donc la bonasse déchirée du film Annie Hall jusqu'à la chanteuse Miley Cyrus. S'il y a vraiment une série à regarder sur ce thème-là, c'est High Maintenance qui est diffusée sur Canal+, donc de Katia Blechfeld et Ben Sinclair qui suit un livreur de weed. Et en fait, la livraison de cannabis est un prétexte scénaristique pour pénétrer dans des univers très différents et raconter plein d'histoires incroyables.
So, you're a pot dealer. What's that like?
I just kind of bike around and people call me and then I bring them weed.
Dans cette série, on voit toutes sortes de gens fumer à tout âge, pour toutes sortes de raisons, et ça banalise quand même vraiment tout ça. Cette série est vraiment incroyable, je vous la recommande.
Trop cool. Moi j'ai un amour fou pour un film, tu parlais de Stoner Movies, bah, je trouve que Smiley Face de Greg Araki est absolument ouf, et tu as juste envie de mourir de rire à chaque moment.
Avec Anna Faris.
Avec Anna Faris qu'on adore tellement, qu'on avait vu dans Scary Movies. C'est l'histoire d'une aspirante actrice qui vit une journée de galère totale après avoir bouffé par accident les space cakes de son coloc. Franchement, c'est à mourir de rire.
This is the story of how a person got from point A to point Z. Step one, the cupcakes.
Je vous le conseille. Sinon, j'ai envie de me faire un petit moment Snoop Dogg. Bon, une fois n'est pas coutume. Hein. J'avoue que c'est peut-être un petit peu problématique, mais j'ai une certaine passion pour le gars qui est quand même un peu le roi de la fumette et qui a lancé une chaîne pour les fumeuses de la hype. Il appelle ça « Queens of the Stonehenge ». Je trouve ça un peu drôle. Et c'est assez badass à regarder. Elle donne des conseils et montre aussi que c'est pas forcément fastoche de se faire une place dans ce petit monde de darons.
Sometimes I just be like sitting like, wow, some people are experiencing life and they're not high. And like, that's crazy.
Et il a aussi lancé sa propre marque de cannabis, Leafs by Snoop. Et alors sinon, parmi les célébrités, il y a Kendall Jenner, Frances McDormand, Cameron Diaz, Jennifer Aniston qui ont parlé de leur rapport au cannabis et évidemment la queen Rihanna qui a quand même
Bad Girl Riri
qui est souvent prise en photo en train de rouler qui porte des crop tops moches avec des feuilles de cannabis. D'ailleurs, on la voit aussi fumer sur ses pochettes d'albums et dans ses clips. Elle a même été éjectée d'un hôtel à la Barbade parce qu'elle a presque mis le feu à sa chambre. Elle a également roulé un joint sur la tête de son garde du corps à Coachella. Elle a même lancé sa propre marque de cannabis comme Snoop Dogg et ça s'appelle Mariana. Haha, super jeu de mots. Depuis quelques mois, il semblerait qu'elle essaye de fumer moins. Voilà, on va suivre ses aventures en fumée. Quant au cinéma, on se souvient de Paulette, le film de la regrettée Bernadette Lafont, dans laquelle elle jouait une grand-mère qui se met à dealer dans une cité HLM. Voilà, hilarant.
Je veux vendre de la drogue.
C'est ma belle-mère, elle est un peu spéciale.
Il faut dire que Hollywood a également toujours quand même un problème avec la stoner chic, c'est-à-dire qu'il n'y en a pas assez et qu'elles ne sont pas assez diversifiées. Et en France, le film qui est sorti ces jours-ci au mois de septembre, c'est La Daronne de Jean-Paul Salomé, dans lequel Isabelle Huppert, toujours elle, joue et une interprète arabe-français pour la police, ok, pourquoi pas, qui se retrouve à gérer un trafic de cannabis à Paris et à devoir écouler des tonnes de barrettes de shit à Ménilmontant et au Tati de Barbès. Voilà, c'était... comment dire, problématique, on l'a vu ensemble, Anne-Laure.
Oui, j'avoue, c'était surtout l'attirail, quoi. Seule qualité de La Daronne, on y retrouve la super actrice Liliane Rovert, qu'on avait vue dans 10% et qui a aussi joué dans Family Business, dont la deuxième saison est actuellement sur Netflix.
Ça va être cadré, légal, propre.
Très fort.
C'est une série assez cool, avec Gérard Darmon et un super personnage de Gwyn, joué par Julia Piaton. On suit l'aventure de Boucher Cachère du Marais qui se lance dans le bis de la bœuf. C'est assez cool. C'est vraiment pas mal. Sinon, j'aime bien de temps en temps me référer à la fameuse série Desperate Housewives, sorry pour les vingtenaires. On en avait déjà parlé parce qu'elle traitait de l'alcoolisme féminin un petit peu de façon chouette, ce qui était un peu une avancée dans les années 2000. Bon, il se trouve qu'elle avait abordé le sujet du cannabis au travers du personnage de Lynette Scavo, qui planait un peu au-dessus de son cancer avec un brownie au cannabis concocté par sa rhum.
Amen.
I made them special, just for you.
This really is delicious.
It's funny, isn't it?
It's genius. He's a sponge, but he talks.
Well, it looks like somebody is feeling a little better.
Yeah, I guess that anti-nausea medicine finally kicked in.
That must be it.
Après avoir été pourtant un peu sceptique à ce traitement contre la dépression de son mari Tom.
Eh oui, mais grand bien lui fasse.
Qu'est-ce que tu kiffes ?
Qu'est-ce que t'écoutes ?
Les recommandations.
Qu'est-ce que t'as dans ta besace ?
Les recommandations
culturelles.
Qu'est-ce que tu lis ?
Les recommandations culturelles.
De quoi de neuf ?
Alors, qu'est-ce que tu nous recommandes cette semaine ?
Alors, je suis un peu frustrée d'avoir été malade pour le premier épisode de la saison.
Vas-y, rattrape-toi, fais-toi plaisir.
Je vais vous conseiller mon coup de cœur vraiment de la rentrée littéraire. Un jour, ce sera vide de Hugo Lindenberg aux éditions Christian Bourgois. Parfois, vraiment, des livres vous chamboulent profondément. C'est le cas avec celui-ci. On suit un petit garçon en vacances en Normandie qui n'a pour famille qu'une grand-mère pleine d'amour et une tante qui lui fait honte. Sur la plage, il s'invente des vies normales avant de rencontrer un garçon parfait avec qui il tue des méduses et sent son cœur battre la chamade. C'est archi mignon. Ça parle de honte, de la culpabilité d'avoir honte de sa famille, de l'enfance qui s'envole, d'un été moite et de la beauté qui filtre entre les nuages. Bref, c'est absolument bouleversant. Et puis pour les mamans...
Ça a l'air trop beau, ah ouais, c'est pour magnifique. Faire durer l'été.
Ah vraiment, et l'écriture est dingue. Et puis pour les mamans ou futures mamans, ou pour un cadeau pour une maman ou une future maman, je recommande l'album « Ma maman est bizarre » par Camille Victorine et illustré par Anna Wanda Gogusset, dont vous connaissez sans doute les dessins. C'est aux éditions La Ville Brûle, une maison d'édition montreuilloise.
Ouais.
C'est l'histoire d'une petite biche dont la maman est queer, cheveux courts, tatoues partout, et qui l'amène dans toutes ses petites aventures de biche bien féministes. C'est hyper rafraîchissant.
Trop bien. Et oui, Anna Wanda, ma tatoueuse.
Ah, voilà. La classe. Et toi, du coup, c'est quoi tes coups de cœur?
Alors moi, c'est le documentaire de Sébastien Lifshitz qu'on connaît parce qu'il avait déjà fait Les Invisibles, qui était un merveilleux documentaire sur des personnes queer. Là, ça s'appelle Adolescente. C'est sorti le 9 septembre et il est encore diffusé dans les salles. Alors allez-y. Pour moi, c'est vraiment le grand film de la rentrée et je trouve qu'on n'en a pas parlé tant que ça. Alors le cinéaste a suivi pendant toutes les années lycée deux adolescentes qui sont aussi copines à Brive, donc Anaïs et Emma, qui viennent de milieux sociaux assez différents. Honnêtement, je ne sais pas comment il a fait pour capter autant de moments d'intimité de leur vie sans être intrusif. Mais en tout cas, c'est un vrai travail de fourmi au long cours et c'est vraiment dément. Je vous en dis pas plus, on écoute la bande-annonce.
Je crois qu'à partir de maintenant, je vais commencer une liste de ce que je veux réaliser. Mais moi, j'aime... Putain, mais moi, c'est des rêves fous, moi, que j'ai.
Allô, allô.
Allô,
monsieur l'ordinateur.
Quoi de ma vous écoute.
Alors cette semaine, on a une question d'auditrice, c'est Morgane qui nous a écrit « Que répondre à un mec gentil qui s'estime victime du contexte actuel, en mode not all men, mais quand même vraiment gentil et relativement féministe, c'est juste que j'arrive pas à lui expliquer ce que ça fait de se faire suivre, etc. » Anne-Laure, peux-tu aider Morgane?
Alors déjà, cette situation nous est tellement arrivée à nous
cringe.
Toutes. Cringe. Ouais, total, là j'ai le bide qui se serre. C'est vraiment arrivé à nous tous, je vais essayer de faire court. Bon alors déjà, avant de réexpliquer pourquoi c'est problématique le not all men, faire une leçon sur les violences systémiques et pas individuelles, il faut rappeler qu'en tant que mec, on est avec des avantages salariaux, sécuritaires, domestiques, qui sont vérifiés par 250 000 études au bas mot, et ça implique d'avoir le time de faire cette éducation-là, mais si c'est ton pote, tu peux le faire. Bon bref, il faut prendre les choses dans l'ordre et lui répondre sur le mot « victime ». Alors, une victime, c'est pas juste quelqu'un qui s'est fait envoyer bouler d'une ride de vélo non mixte, hein, ni quelqu'un qui s'est fait envoyer bouler d'une réunion féministe parce qu'il est un mec cis. Non, non, une victime, c'est quelqu'un qui subit une violence, pas une vexation ni un petit revers. Ensuite, je pense que c'est toujours bien de rappeler ce que toi, tu as subi, comme tu as commencé d'ailleurs à le faire. Ils tombent toujours un peu de leur chaise, peut-être en lui racontant ce que tu as subi dans ta vie, du harcèlement de rue, du harcèlement au travail, agression physique et verbale du CP aujourd'hui, plafond de verre de mecs promus à ta place, comment tu t'es fait couper la parole par des mecs gentils, comment tu as peur de porter plainte. Ensuite, prends l'exemple avec tout ce que tu as vécu toi, et ce que lui a vécu aussi. Tu peux faire la comparaison. Par exemple, tu as vécu une soirée en tant que femme où tu projettes tes déplacements, comment tu vas devoir te promener dans la rue, comment quand tu penses à tes vacances, il faut que tu les anticipes. Si tu es en train de nuit, par exemple, tu vas choisir un compartiment spécial femme parce que tu penses que tu pourrais être agressée. Tu marches le long du trottoir et pas contre un mur. Tu étudies ton chemin retour dès que tu arrives en soirée. Tu penses à ta tenue le matin en anticipant les prises de risque. Tu mets tes écouteurs dans le métro, pas juste pour écouter de la musique. Tu vérifies tes arrières et tes côtés de jour comme de nuit. Et tu as un plan, voire deux dans la tête si on te suit, faire comme si on t'appelait, comme si ton mec t'appelait, ou préparer une clé de bras ou un éclatage de couilles que tu as appris en cours de self-défense. Est-ce que lui, c'est son cas? Est-ce que c'est comme ça qu'il anticipe ses déplacements? Non. Après, ça peut. Par exemple, un mec qui est gay et efféminé, ça peut. Il peut les anticiper comme ça. Mais le problème reste le même, c'est la violence des hommes en tant qu'entité et pas en tant qu'individualité. Évidemment que certains mecs sont super, mais là, on parle pas d'eux, on parle de tous. Bref. Comme la violence des Blancs, où certains individus sont conscientisés, ça n'empêche pas qu'en tant qu'ensemble, les Blancs sont une population écrasante et violente. Bah là, c'est exactement la même chose. Bon, là, normalement, il sera mouché, ou si c'est un faf, il sera encore plus vénère. Et si c'est le cas, change de pote.
Écoute, j'espère que cet effet de liste suffira à le convaincre. Sinon, laisse tomber. Réfère-le vers Google. Voilà, pas la peine de perdre son temps.
T'as pas le time.
Merci pour tous ces bons tips. Nous, on a fait le tour de la question. On se retrouvera la semaine prochaine pour parler de notre livre préféré de la rentrée littéraire, Suspense. Vous pouvez retrouver toutes les références dans le descriptif de l'épisode. Vous pouvez aussi nous écrire @quadmeuf sur les réseaux sociaux, nous laisser des étoiles sur Apple Podcast. Ça nous aide à être bien référencés. Et merci. Salut Anne-Laure.
Salut.
Quoi de Meuf est une émission de nouvelles écoutes. Cet épisode est conçu par Clémentine Gallo
et présenté avec Anne-Laure Pinault.
Mixage Laurie Galigani, générique réalisé par Aurore Meyer-Mailleux, prise de son, montage et coordination Ashley Tola.